Et c'est le journal de Marion Ferrer. Bonjour Marion.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous. 8000 hectares partis en fumée, le feu dans le Var est fixé mais brûle toujours. Les pompiers veulent éviter à toute reprise. Reportage à venir de Nina Valette. Le pont aérien continue entre Kaboul et les capitales occidentales. Sur place, des milliers de personnes fuient les talibans. Des situations parfois dramatiques et improbables, récit de l'une d'entre elles dans ce journal. Et puis samedi 21 août, journée mondiale d'hommage aux victimes du terrorisme. 7 personnes ont été tuées en France en 2020 dans un attentat. Des terroristes happés par la propagande sur Internet.
Dans 20 minutes, la première invitée de la matinale, Laure Gasparotto, historienne spécialiste du vin, ancienne propriétaire d'un vignoble dans l'Hérault. Conséquence du gel, des pluies, du mildiou, des incendies qui ont décimé des vignobles. La récolte cette année devrait être inférieure de 24 à 30% du jamais vu depuis plus de 40 ans. Alors comment va la filière du vin en France? Eh bien, on posera la question à Laure Gasparotto à 7h50.
France Inter.
Les pompiers restent vigilants dans le Var où plus de 8000 hectares sont partis en fumée depuis lundi. Un incendie qui a fait 2 victimes et 26 blessés, dont 13 soldats du feu. Aujourd'hui, même si le feu est fixé, il y a toujours un risque de reprise. Les secours vont donc rester sur site plusieurs jours pour surveiller les départs. Et puis surtout, Nina Valette, pour préparer le terrain si la situation dégénère.
Depuis lundi, les pompiers du Var et du reste de la France s'activent sur le terrain pour combattre ces flammes. Mais depuis hier, ils sont sur place avec une idée claire, en finir définitivement avec ce feu fixé. Pour ça, il faut être présent partout, tout le temps. Denis, pompier des Bouches-du-Rhône, est venu en renfort.
La moindre fumée, le moindre fumerole, comme on dit chez nous, on a une équipe de 4 camions qui se rendent rapidement sur place, ou les avions, puisqu'on a les avions la journée, et ça c'est très bien.
Mais Denis et son binôme, Guillaume, ont une autre mission sur ce feu.
Nous, c'est de mettre du retardant sur des zones spécifiques, en cas de reprise pour retarder le feu.
Tout ce qui a brûlé, on ne le traite pas, on ne traite que le verre. De manière que si jamais il y a une reprise, quand le feu va arriver dans le verre qu'on aura traité, il ne pourra plus aller au-delà.
Et il existe une troisième équipe, les pompiers en charge des parties brûlées.
Donc eux, leur rôle, c'est d'arroser un maximum la terre, d'arroser tout ce qui est brûlé, parce qu'il peut y avoir des reprises, les lisières du terrain. La lisière, c'est entre le verre et le brûlé, quoi. Et donc là, il y a un travail énorme parce que ça dure longtemps et il faut arroser.
Et d'après ces pompiers, pour éteindre complètement l'incendie, il faut continuer ces opérations une bonne dizaine de jours.
Nina Valette pour France Inter. D'après les premiers éléments d'enquête, un mégot jeté sur l'aire d'autoroute de Sigue à Gonfaron serait responsable du départ de feu.
Les opérations d'évacuation continuent à l'aéroport de Kaboul en Afghanistan.
Un quatrième avion s'est posé cette nuit en France. À bord, une centaine de personnes, dont 99 Afghans. Mais sur place, à Kaboul, ils sont des milliers à vouloir fuir les talibans de retour au pouvoir depuis 6 jours. Parmi eux, Shahbaz, qui vit pourtant en France depuis plusieurs années. Il est coincé à Kaboul, où il est parti début août pour raisons familiales. Vanessa Descoureaux, sa femme, est française. Elle tente d'alerter les autorités, mais sans succès.
Shahbaz vit en France depuis 15 ans. Il aurait dû reprendre son travail de manutentionnaire après 3 semaines en Afghanistan, où il est allé après la mort de son père. Il s'excuse de parler en anglais, mais son français est plus hésitant, surtout quand il est emporté par la colère contre les autorités.
15 ans que je travaille pour ce pays. Je paie toutes les charges ici. Et maintenant, il me laisse sur le bord de la route. Je suis vraiment en colère.
Hier après-midi, à 14h30, très précisément, il le sait, il a regardé sur sa montre, un commando de talibans a frappé chez ses voisins.
Ils demandent s'il y a des armes, de l'argent, des voitures, quel est ton métier? S'ils apprennent que ma femme est française, croyez-moi, ils me tuent.
Sous les talibans, Shahbaz a été emprisonné 3 ans, c'était à la fin des années 90. Il prend ensuite la route pour l'Europe. Il arrive au camp de Sangatte, où il rencontre celle qui allait devenir sa femme, Florence.
Il est décomposé. Puis ce qui est horrible, c'est qu'il a l'impression de revivre la même chose d'il y a 20 ans. Et quand on sait comment ça se passe, c'est encore pire. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Moi, je suis abasourdie.
Florence a contacté la cellule de crise du Quai d'Orsay. Pour l'instant, aucune réponse des autorités.
Et l'histoire de Florence et Shahbaz est à retrouver en longueur sur notre site franceinter.fr. En Haïti, une semaine après le tremblement de terre, 47 tonnes de vivres sont envoyées par la France et sont attendues aujourd'hui. Le séisme a fait près de 2200 morts, 330 disparus et 12 000 blessés. Vigilance aussi au Mexique. L'ouragan Grace s'approche et se renforce Corse avec des vents soutenus de 195 km/h. Grace est désormais classé ouragan de catégorie 3. Il touchera dans les heures à venir la côte nord du pays.
Situation compliquée aux urgences de l'hôpital intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay. C'est en Seine-Saint-Denis.
Et ce n'est pas à cause du Covid, mais en raison du manque d'effectifs. 70% des soignants se sont mis en arrêt maladie. Certains sont en burn-out. Raison pour laquelle la direction a déployé le plan blanc lundi, validé par l'ARS. Il permet d'assigner les personnels des autres services aux urgences. Et ce n'est pas sans conséquence sur la situation sanitaire des patients. Nathalie Domenego, vous avez interrogé des infirmières arrêtées. Leurs prénoms et leurs voix ont été modifiés à cause de leur devoir de réserve. Elles n'ont pas le droit de parler.
Tout a commencé dimanche dernier lorsque les infirmières en sous-effectif et en manque de moyens ont dû travailler 24 heures d'affilée. Elles en sont ressorties usées et écœurées par la maltraitance infligée aux patients. Isabelle cite notamment cet homme qui a fait des crises d'épilepsie dans un coin à l'insu des soignants.
Cette personne aurait dû être affectée dans un service de neurologie, chose que nous ne sommes pas du tout, nous sommes dans un service d'urgence.
Et pourquoi il n'est pas allé au service de neurologie ?
Par faute de place.
Pour pallier ce manque de personnel, les urgences en arrêt, la direction a déprogrammé les opérations chirurgicales, ce que nie l'ARS. Les soignants du bloc opératoire ont été assignés aux urgences, alors que le métier n'est pas le même, explique Isabelle, infirmière urgentiste.
C'est-à-dire que nous devons pallier, par exemple, à un arrêt cardiaque, à une hémorragie, un accident vasculaire cérébral. Ça veut dire que nous devons injecter des drogues et des médicaments.
Ce que ne sait pas faire une infirmière qui assiste un chirurgien au bloc, explique Sarah. Mais peu importe pour les dirigeants de l'hôpital, dit-elle, le plus important est de remplir le planning.
Une infirmière, c'est une infirmière. Qu'elle ait travaillé aux urgences ou pas, ils s'en moquent. Tout ce qu'ils voient, c'est un chiffre au bout de la colonne. Il faut 7 infirmiers pour faire tourner les urgences, peu importe d'où ils viennent et s'ils seront capables d'y travailler.
Lors d'une réunion cette semaine, la direction a promis des améliorations, mais les infirmières n'y croient plus.
Sur le front du Covid, la France compte désormais plus de 10 500 patients pris en charge à l'hôpital, dont plus de 2 000 sont en réanimation. La contestation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, elle, ne s'essouffle pas. Plus de 200 manifestations sont prévues un peu partout sur le territoire. Sixième samedi de mobilisation. Nous sommes le samedi 21 août, journée mondiale d'hommage aux victimes du terrorisme. Romans-sur-Isère, la basilique de Nice ou encore Samuel Paty, 7 personnes sont mortes l'année dernière dans un attentat islamiste. Les assaillants ont tous agi sans l'appui logistique d'un groupe terroriste, mais motivés par une propagande intense de ces organisations sur Internet. Europol, l'agence européenne de police criminelle, vient de publier un rapport sur ce sujet. Principal enseignement, Ariane Grissel, plus les groupes terroristes tels que l'État islamique perdent du terrain dans leur zone, plus ils sont offensifs en ligne.
En perdant des territoires, le groupe État islamique a aussi perdu des moyens financiers et humains pour alimenter sa propagande sur Internet. Celle-ci a donc décru l'an dernier. Moins de communiqués, de vidéos ou de messages audio émanant directement de l'organisation djihadiste. Mais celle-ci reste très présente en ligne puisqu'elle appelle ses sympathisants à relayer au maximum ses diffusions. Ces échanges se font notamment par messagerie cryptée comme Telegram, mais aussi via les plateformes de jeux vidéo ou de partage de photos. L'un des objectifs de cette propagande est de conduire les sympathisants à mener des attaques seuls de leur propre initiative, avec l'an dernier cette incitation à profiter de l'épidémie de Covid pour frapper des sociétés occidentales décrites comme affaiblies et mener ce qui a été qualifié de guerre d'usure contre l'Occident. Au-delà de ce vocabulaire martial, le groupe État islamique utilise également Internet pour prodiguer des conseils sanitaires face à la pandémie. Façon de montrer, toujours dans cet objectif de propagande, que l'organisation est en mesure de prendre soin des siens et gouverner un éventuel califat.
Ariane Grissel pour France Inter. On l'utilise davantage depuis la crise sanitaire, la carte de crédit, moyen de payer facilement sans contact. Le géant des cartes de crédit Mastercard s'apprête à supprimer la bande magnétique noire qui figure au verso. Une étape de plus dans l'évolution des moyens de paiement, Fabien Cazot.
La bande noire des cartes de crédit victime du paiement sans contact. Dernière estocade pour ce qui est considéré aujourd'hui comme le moyen de sécurisation le moins efficace des cartes bancaires comparé aux puces et aux codes confidentiels. La bande noire, devant être balayée horizontalement dans un lecteur, ne servait quasiment plus nulle part, seulement dans les commerces qui ne sont pas équipés de terminaux capables de lire les cartes à puces. La suppression de la bande noire commencera progressivement à partir de 2024. Elle ne figurera plus sur aucune carte Mastercard d'ici 2033 et d'autres fabricants devraient suivre, notamment en Europe. Mastercard, de son côté, a récemment annoncé un partenariat avec Samsung pour développer de nouvelles fonctionnalités sur ses cartes de débit et de crédit, en particulier des cartes biométriques équipées de capteurs d'empreintes digitales.
Et puis pour les passionnés de sport automobile, les 24 heures du Mans démarrent aujourd'hui. Coup d'envoi à 16h, Toyota partira en pole position.
Merci Marion Ferrer. Est-ce que le temps d'aujourd'hui, ça vous intéresse?
Évidemment.
Évidemment. Et bien on va demander à Jean-Michel Golinski.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Jean-Michel, Marion Ferrer et tout de suite, une journée en demi-teinte sur la moitié nord.
Ah, exactement, avec ce matin des pluies qui attaquent la Bretagne et les pays de la Loire en gagnant vers l'est. Elles vont s'accompagner d'orages, souvent avant le milieu de la journée, entre le centre Val-de-Loire et la région parisienne, puis en cours d'après-midi vers la Belgique, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Des orages souvent plus forts en fin de journée sur les régions les plus à l'est. Plus bas, une fois passé une ligne Bordeaux-Lyon, le soleil sera vaillant, mais avec ce matin des grisailles quand même assez denses sur le Languedoc-Roussillon et au sud de la Garonne.
Et ça se traduit comment côté température ?
Eh bien, il va faire chaud aujourd'hui sur les régions de l'Est, entre 30 et 32 degrés du Grand Est à la Méditerranée. Des températures estivales sur une large partie centrale, notamment entre le nord de la Seine et le quart sud-ouest, où il est prévu entre 27 et 29. En revanche, il fera plus frais sur la Bretagne et les Pays de la Loire, avec un maximum de 21 degrés à Brest et 22 à Rennes et à Nantes.